Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Jean-Marc Lilling, directeur exécutif du CIMI, le Centre de Migration Internationale et d'Intégration basé à Jérusalem. Jean-Marc Lilling, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans un pays de migration tel qu'Israël, votre organisation semble aller de soi. Quand a-t-elle été créée ?
Alors, l'organisation a été créée il y a presque 20 ans par l'intermédiaire du Joint Distribution Committee, qui est une organisation juive américaine très importante qui agit au niveau humanitaire dans le monde entier. Et en fait, au départ, l'organisation avait pour but d'apprendre les leçons des succès de l'immigration en Israël et de l'intégration. Or, aujourd'hui, cette organisation est chargée principalement de l'immigration non juive en Israël, donc différents groupes de population, parmi lesquels il y a les demandeurs d'asile, bien entendu, donc, qui sont au centre du débat actuellement, mais beaucoup aussi concernant les questions de travailleurs immigrés qui viennent en Israël pour travailler en général pour 5 ans, et des questions aussi de trafic d'êtres humains, de retour volontaire et d'autres questions.
Oui, justement, quelles sont, vous, vos principales activités et vos principaux défis de votre activité, de votre organisation quotidienne ?
Écoutez, d'abord, nous travaillons notamment avec le gouvernement, l'autorité d'immigration, ce qui est assez rare dans ce domaine, pour améliorer la situation des travailleurs immigrés qui viennent légalement en Israël, sous couvert d'accords bilatéraux entre Israël et les pays d'origine. On parle des domaines de l'agriculture, de la construction et de l'aide à domicile pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées. Jusqu'à il y a quelques années, ce système n'était pas vraiment régulé par l'État. Et en gros, c'était les travailleurs immigrés étaient recrutés et venaient en Israël par le biais de boîtes d'intérim qui avaient pris pour habitude de demander des frais, des paiements très très importants des travailleurs eux-mêmes, ce qui les rendait assez vulnérables ou même très vulnérables parfois quand ils arrivaient en Israël. Mmh. Et donc nous sommes intervenus avec l'accueil plein et le soutien du gouvernement pour changer le système et faire en sorte que le recrutement et l'arrivée des travailleurs immigrés donc dans ces domaines que j'ai cités se fassent de manière beaucoup plus transparente et en fait élimine la nécessité pour les travailleurs de payer des frais, encore une fois, qui étaient très importants. Et donc ça, aujourd'hui, c'est de plus en plus régulé et c'est un système qui fonctionne bien, surtout dans l'agriculture et le bâtiment. En ce qui concerne les travailleurs à domicile, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Oui.
Deuxièmement, nous travaillons beaucoup avec les demandeurs d'asile africains qui sont arrivés ces dernières années, depuis environ 10 ans en Israël. Ceux-là sont presque tous d'Afrique. Et en fait, une très grande concentration se trouve au sud de Tel Aviv, et de manière générale sous la municipalité de Tel Aviv. Et beaucoup d'organisations, d'ONG israéliennes qui viennent en aide à ces populations se trouvent elles aussi à Tel Aviv. Or, il y a de plus en plus de demandeurs d'asile africains qui se trouvent dans d'autres villes, notamment à Eilat, au sud, à Be'er Sheva, et dans d'autres villes de la périphérie de Tel Aviv. On parle de Natania, de Petah Tikva, de Rishon LeZion. Et il n'y a que peu de connaissances de la situation des demandeurs d'asile dans ces villes de la périphérie. Et c'est stratégiquement le choix qu'a fait CIMI, c'est d'intervenir auprès des réfugiés pour une meilleure réalisation de leurs droits et un respect de leurs droits dans les villes de la périphérie israélienne. Nous sommes présents, en fait, donc à Eilat, à Be'er Sheva, bien entendu à Jérusalem, où est notre base, et nous avons des contacts avec beaucoup d'autres villes et municipalités à travers Israël.
Oui, vous avez évoqué des accords bilatéraux pour les travailleurs émigrés légaux avec certains pays. Quels sont ces pays, en gros, avec lesquels il y a des accords ?
Alors, dans le domaine de l'agriculture, le premier gros accord qui fonctionne très bien, c'est avec la Thaïlande pour faire venir des travailleurs dans l'agriculture. Il y a quelques centaines de saisonniers qui viennent chaque année en Israël du Sri Lanka, mais le gros des travailleurs immigrés qui viennent pour travailler dans l'agriculture viennent de Thaïlande, une très 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 grande majorité. Ensuite, dans le bâtiment, il y a des accords avec des pays d'Europe et d'ex-Union soviétique principalement, la Bulgarie, la Roumanie qui font venir seulement quelques centaines de personnes par an, et avec la Moldavie, les chiffres sont beaucoup plus importants. Et l'Ukraine n'a pas encore envoyé des travailleurs immigrés en Israël, mais un accord a été signé et l'infrastructure est en train d'être mise en place pour faire venir. À part ça, il y a un accord bilatéral pour les ouvriers de la construction avec la Chine. Et il y a des milliers de Chinois qui sont attendus, en tout cas en 2018. Ce qui est important de préciser, c'est que de ces pays... les travailleurs immigrés viennent en général pour un maximum de 5 ans. Mmh. Ensuite, en ce qui concerne l'aide à domicile, c'est aussi en principe pour 5 ans. On a très longtemps parlé des Philippins, principalement, mais les accords bilatéraux existent pour l'instant uniquement avec le Sri Lanka et le Népal. Et on parle d'étendre ces accords bilatéraux avec notamment la Moldavie et l'Inde. Les Philippins, pour l'instant, n'ont pas d'accord bilatéral. Et là, encore une fois, le système n'est pas entièrement régulé. C'est-à-dire qu'il existe encore des boîtes d'intérim israéliennes qui vont recruter dans différents pays et où la pratique généralisée est encore que les travailleurs payent eux-mêmes des sommes importantes pour venir en Israël. On parle de 10 à 15 000 dollars par personne.
Oui.
Donc ça, c'est les pays avec lesquels nous avons des accords bilatéraux.
Y a-t-il des accords entre Israël et un ou des pays africains ?
Pas pour faire venir des travailleurs immigrés.
D'accord. Alors, certaines associations en Europe parlent d'Europe forteresse. Est-ce qu'on peut parler aussi d'Israël forteresse par rapport à ces migrants africains, notamment ?
Alors, écoutez, Israël vit dans une période de manière générale difficile. Depuis la création de l'État, on peut dire qu'il y a un état d'esprit forteresse. De toute façon, pour des raisons avant tout sécuritaires, le sentiment qu'on est entouré par des pays ennemis en partie, et même ceux avec lesquels Israël a des accords de paix, c'est souvent une paix froide, avec un sentiment quand même que c'est pas des pays avec lesquels se sont engagés des accords de coopération très très poussés, très étendus. Donc ça, il y a déjà un état d'esprit en Israël de forteresse, ça on peut le dire. Par rapport aux migrants africains, il y a eu très vite une attitude, peut-on dire de forteresse, je ne sais pas. En tout cas, le sentiment que, étant donné qu'Israël est le seul pays à avoir une frontière terrestre avec l'Afrique, un sentiment que Israël, jusqu'à il y a quelques années, quand Israël a construit une barrière de sécurité, on va dire, sur toute la frontière avec le Sinaï, donc avec l'Égypte, on était le seul pays, donc il y avait une frontière terrestre, et donc, quelque part, étions beaucoup plus facilement accessibles que d'autres pays, notamment d'Europe, pour des migrants africains, quels qu'ils soient demandeurs d'asile, réfugiés, ou éventuellement qu'ils seraient venus en Israël pour des raisons économiques. Donc, il y a, de fait, on a construit une barrière, et de fait, on a, depuis ces dernières années, empêché l'arrivée massive de migrants africains qui jusqu'à là, jusqu'à il y a quelques années, arrivaient en grand nombre. Au maximum, en quelques années, il y a eu 65 000 migrants africains en Israël, la plupart arrivés de deux pays qui sont l'Érythrée et le Soudan.
Mmh. Donc ils auraient droit normalement au statut de réfugiés politiques, mais quel est dans les faits leur statut ?
D'abord au niveau des chiffres, que les migrants qui arrivent notamment en Europe ou en Amérique, ceux qui viennent d'Érythrée, il y a un taux de reconnaissance du statut de réfugié à environ 90%, par exemple en Allemagne, 97% au Canada, donc des chiffres des pourcentages très très importants. Pour les Darfouris, c'est un peu moins. Pour les Soudanais, c'est un peu moins. Ça peut aller, selon les pays, de 70%, 80%, 85%. La plupart des Soudanais qui sont en Israël sont du Darfour, région du Soudan qui a souffert de massacres très très importants, de déplacements de population. Certains parlent même de génocide. Et donc, de cette région-là, il y a un taux de reconnaissance assez important. Or, Israël, d'abord, a mis du temps à mettre en place une procédure d'asile en bonne et due forme. Pendant très longtemps, elle a autorisé le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, son bureau local, de faire l'examen des demandes d'asile. Et c'est seulement en 2009 qu'Israël a mis en place son propre système d'examen des demandes d'asile. Et puis, depuis lors, le taux de reconnaissance qui sort du système israélien est un des plus bas au monde. Nous laisse croire ou estimer que le système est inadéquat. C'est-à-dire que le taux de reconnaissance est si bas, est tellement disproportionnellement bas par rapport aux autres pays qui font l'examen des demandes d'asile, notamment des Érythréens et des Soudanais, qu'il laisse à penser que le système non seulement est inadéquat, mais qu'il ne prend pas au sérieux les demandes d'asile de ces deux groupes de population.
Oui, vous avez donc la possibilité ou l'initiative de proposer des changements au gouvernement ?
Écoutez, nous travaillons avec le gouvernement sur la question des travailleurs immigrés, beaucoup moins ou pas du tout sur les questions d'asile. J'ai moi-même fait partie, on va dire, du système indirectement parce que j'ai travaillé au HCR de 2005 à 2009 et j'ai été une des personnes qui a formé les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui sont censés faire l'examen des demandes d'asile. En effet, vu de l'intérieur, ce n'était pas prometteur dès le départ. Et les chiffres tels qu'ils existent, tels qu'ils nous sont présentés aujourd'hui, laissent à penser que le système ne fonctionne pas. Il y aurait quelque part un réel examen et peut-être une réforme totale du système à être réalisée. Mais je crois qu'avant tout, c'est une question de perception et de politique d'immigration. Je crois que pour beaucoup de gens, que ce soit les fonctionnaires de l'État, du ministère de l'Intérieur et même la population israélienne, Israël ne s'est jamais perçu comme un pays d'immigration non juive. Mmh. Or, au niveau des chiffres, nous sommes devenus un pays d'immigration, comme n'importe quel autre pays, par exemple d'Europe, mais nous n'avons pas encore intégré les connaissances et même la perception que Israël pourrait devenir un pays d'immigration. Donc on plane dans nos contradictions internes. Un pays qui a remarquablement intégré des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de juifs arrivés de par le monde, et avec une grande réussite, et en même temps une incapacité, on va dire, intellectuelle, conceptuelle, à penser l'immigration non-juive vers Israël. Et or, nous sommes demandeurs, d'une part, d'une main-d'œuvre immigrée, même si c'est pour un temps limité, mais il faudrait qu'il y ait une politique d'immigration à ce niveau-là. Et d'autre part, nous sommes signataires des conventions internationales, notamment de la Convention sur le statut des réfugiés. Et là, il y va de, non seulement de notre image, mais de nos responsabilités en tant qu'État souverain qui a signé une convention. Et j'ajouterais en plus peut-être des valeurs du judaïsme et en tout cas un respect des leçons de l'histoire du peuple juif. Après tout, le peuple juif a été un peuple de réfugiés, un peuple de migrants qui a réussi à se reconstruire et même à vivre une renaissance sur la terre d'Israël. Et il nous faudrait peut-être au moins avoir au minimum une discussion importante sur la signification de l'immigration non juive vers Israël. Israël pourrait éventuellement déclarer, ou le gouvernement actuel, en venir à la conclusion que Israël n'est pas fait pour une immigration non juive. Mais alors là, on devrait faire preuve de cohérence et dire qu'on va faire appel avant tout à une main-d'œuvre locale, qu'elle soit israélienne, venant des territoires palestiniens, et dans quelle mesure c'est eux qu'on intègre avant tout sur le marché du travail israélien. Et encore une fois, pour moi, la question des réfugiés était une question annexe, qui est beaucoup plus une question d'ordre éthique, parce que nous sommes non seulement signataires de la Convention, nous avons été un des premiers pays à signer cette Convention, mais là, je crois qu'il y va de l'identité même d'Israël, une question fondamentale. Si quelqu'un frappe à notre porte, nous, en tant qu'Israéliens, en tant que Juifs, est-ce que s'ils sont en danger, nous avons peut-être une responsabilité, peut-être même une obligation de les accueillir, si ce n'est que pour un temps temporaire, pour leur donner et leur accorder une protection.
Oui, oui. Ce sera ma dernière question, dans le sens de cette difficulté intellectuelle, de cette mauvaise image d'Israël donnée à l'extérieur. Que pensez-vous justement du nouveau décret du gouvernement en début d'année qui obligerait les réfugiés soudanais et érythréens à retourner dans leur pays ou un pays tiers contre une somme d'argent, 3 500 $? Dans quelle mesure est-ce que ce décret peut être mis en œuvre ?
Écoutez, dans l'absolu, le gouvernement israélien, comme n'importe quel gouvernement, peut mener une politique d'immigration restrictive ou même extrêmement restrictive si elle choisit et si cette politique est le résultat d'un consensus politique au niveau de la Knesset, du gouvernement et des autres acteurs politiques israéliens. Maintenant, le minimum pour moi, c'est en tant qu'État de droit, en tant qu'État souverain, c'est d'abord qu'il y ait que soit mise en place une politique d'asile et une procédure d'asile en bonne et due forme. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette procédure doit encore faire ses preuves de manière assez drastique, parce qu'aujourd'hui les chiffres sont tellement bas qu'ils sont scandaleux et n'ont rien à voir avec la réalité. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, si Israël décide d'avoir une politique expulsion vers des pays tiers ou vers les pays d'origine, Israël doit s'assurer que ces pays sont des pays sûrs, où les personnes concernées, qui seraient expulsées éventuellement, aient au moins des garanties de sécurité et de pouvoir reconstruire leur vie sur la base d'un statut reconnu et des aides éventuellement d'intégration, qu'elles soient économiques ou autres. Or, les accords qui ont été signés avec des pays tiers, d'abord, on ne connaît pas le nom officiellement des pays tiers, tout le monde parle du Rwanda et on a parlé à l'époque de l'Ouganda, mais le gouvernement, lui, n'a jamais publié les noms de ces pays. Et encore moins, le gouvernement a-t-il publié les accords eux-mêmes, et donc les candidats au départ et la société israélienne dans son ensemble ne connaissent ni le nom des pays, ni les conditions qui attendent les personnes qui seraient expulsées d'Israël. Et d'après les investigations qui ont été faites par de nombreuses personnes, de nombreuses organisations en Israël, et notamment aussi par le HCR en Italie, les personnes qui auraient été contraintes de quitter Israël ces dernières années vers le Rwanda et l'Ouganda n'y sont pas restées, parce qu'on n'aura pas accordé quelque statut que ce soit qui leur permettait de reconstruire leur vie dans ces pays-là. Et la très grande majorité, très très grande majorité, sont repartis sur les routes de l'exil avec tous les dangers que cette route et ce chemin sans destination certaine leur promettaient.
D'accord. Bien, merci beaucoup pour toutes vos explications et bon, on restera attentif aux évolutions prochaines. Merci beaucoup, Jean-Marc Lénine.
Et à pas de quoi, à bientôt.
À bientôt.